mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde en ce jeudi 5 novembre, ce mardi pardon 5 novembre. Ouais, la semaine a commencé fort, on se croit déjà le jeudi, mais non, le week-end n'est pas encore là. Sans plus tarder, sans transition, on attaque tout de suite avec quelque chose qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui nous vient d'Iran. Une vidéo notamment très relayée où on montre le courage, c'est ainsi que l'on nommait, d'une jeune iranienne qui déambule devant son campus de Téhéran en sous-vêtements et sans son voile en guise de protestation avant d'être ensuite arrêtée par les autorités. Voici donc ce qu'on en sait de cette personne qui est déjà devenue un symbole de la lutte des femmes en Iran. Alors, rappelle cet article que plusieurs femmes sont mortes pour avoir mal porté le voile en Iran, à l'instar de Mahsa Amini, c'était en septembre 2022. Cette vidéo, qui est sortie ce samedi de novembre et qui est depuis donc très relayée sur les réseaux sociaux, paraît incroyable, hein. On y voit donc une jeune iranienne qui déambule sur le parvis de l'université de la fac Azad de Téhéran, en sous-vêtements et les cheveux détachés. Donc au milieu autour d'elle, justement, de nombreuses femmes intégralement voilées déambulent aussi. C'est sur une chaîne Telegram d'étudiants iraniens qui s'appelle la newsletter Amir Kabir qu'a été publiée cette vidéo. Selon le collectif, l'étudiante a été violentée justement par la sécurité de l'université pour non-port du voile. Et cette sécurité lui a arraché ses vêtements. Et c'est là-dessus donc que l'étudiante a pris l'initiative de se montrer en sous-vêtements devant son campus en signe de protestation pour dénoncer ce dont elle avait été victime, avant, très peu de temps après, d'être jetée dans une voiture par 4 membres de la sécurité du campus. Selon le site Amir Kabir, elle a été battue au cours de son arrestation. La vidéo, donc, depuis a fait le buzz, et on rappelle que... En guise de justifier à cette vidéo, donc, du côté du campus iranien, c'est l'agence iranienne Fars, qu'on considère très proche des gardiens de la révolution et donc du pouvoir, qui a affirmé que l'étudiante avait des vêtements inappropriés en classe et qu'elle s'était dévêtue après avoir été mise en garde par les agents de sécurité. Ils citent des témoins d'ailleurs dans cette agence et ils assurent que les agents ont parlé calmement à la jeune femme et n'ont pas agi de façon agressive. Toujours selon le directeur des relations publiques de cette université de Téhéran, elle présente un trouble psychique. On se demande en effet qui n'aurait pas de problème psychique dans des conditions aussi répressives. D'ailleurs, l'étudiante a été admise dans un hôpital psychiatrique, selon en tout cas les informations disponibles à l'heure actuelle. Cette arrestation a donc suscité de nombreuses réactions de soutien et d'indignation. Aujourd'hui, tout le monde est derrière cette jeune femme et revendique la dimension politique et collective de son acte. Et disait par exemple sur France 2, Shoura Makareni, qui est une anthropologue spécialiste de la société iranienne. On rappelle qu'en Iran, les femmes doivent respecter un code vestimentaire très strict en public, à savoir le port du foulard et de vêtements amples. Le non-respect du code vestimentaire, alors considéré comme de la nudité, expose ainsi les iraniennes à des amendes qui peuvent aller jusqu'à 8 millions de tomans, ça fait 138 euros, c'est beaucoup, beaucoup pour l'Iran. Et cette nouvelle arrestation intervient près de 2 ans après la mort, le 16 novembre 2022, de Mahsa Amini, donc cette jeune kurde iranienne de 22 ans, arrêtée par la police des mœurs, elle aussi pour non-respect du code vestimentaire, ce qui avait déclenché un vaste mouvement de protestation dans tout le pays, au cri de « Femme, vie, liberté ». Autre anniversaire, puisqu'aujourd'hui c'est le 5 novembre, une date tragique dans les mémoires de tous les Marseillais et Marseillaises depuis l'année 2018, où l'effondrement d'immeubles de la rue Noailles avait laissé de nombreuses personnes mortes et de nombreux blessés. Sur de nombreux médias, il est donc relayé aujourd'hui un appel signé par 55 collectifs, associations ou syndicats, et une journée nationale contre l'habitat indigne était organisée ce 2 novembre à Marseille, suivie d'une marche ce 3 novembre, et les procès continuent, eux, de se dérouler pour justement essayer désigner les responsables dans ces drames. C'est du 7 novembre au 18 décembre que se tiendra d'ailleurs ce procès dit de la rue d'Aubagne, dans lequel on espère pouvoir déterminer les responsabilités de l'effondrement de ces deux immeubles, donc le 5 novembre 2018, provoquant le décès de 8 personnes. Un procès public hors normes, qui est censé apporter des réponses aux questions et aux attentes des familles des victimes et des plus de 80 parties civiles qui se sont constituées depuis. 16 personnalités physiques et morales sont poursuivies dans ce procès. Julien Rouas, l'ex-adjoint de Jean-Claude Gaudin, qui est décédé lui depuis, donc à la mairie de Marseille. Des propriétaires privés, donc Xavier Cachard, qui a été élu Les Républicains à la région. L'entreprise, enfin le groupe Marseille Habitat, qui gère une partie de l'habitat du parc locatif de la ville. Richard Carta, un expert. Le cabinet Lyotard, le syndic du numéro 65. Tous sont impliqués dans le drame et seront jugés pour déterminer leur responsabilité pénale et notamment le non-entretien de ces immeubles très vétustes. Voici ce qu'on lit sur le communiqué donc, de ces collectifs, de ces 55 collectifs marseillais. Effondrement et péril ont révélé à toutes et tous et tous les Marseillais l'ampleur catastrophique de l'habitat indigne. Plus de 8000 personnes ont été délogées depuis ces six dernières années, notamment dans le quartier autour de Noailles. Marseille, devenue symbole du mal logement, a été aussi le théâtre de mobilisation et de lutte exemplaire, remportant de nombreuses victoires. Ceux et celles qui luttent sans relâche pour l'accès à un logement digne pour toutes et tous, contre la chasse aux pauvres, aux immigrés et la gentrification, se sont réunis ce mardi. Et donc, se tenait ce mardi 5 novembre un hommage des Marseillais, place du 5 novembre, rue d'Aubagne, à 8h30. Diverses actions citoyennes à Noailles et à Marseille vont être organisées, notamment pour organiser le suivi citoyen du procès. Voilà, on essaiera de vous tenir aussi informé de ce qui se dit et se fait pendant tout ce mois d'audience du côté de Marseille. Et de l'eau, soit il en tombe trop, soit il en manque. Là, on va aller voir un petit peu un cas de sécheresse en Guyane, puisque les pénuries d'eau et de nourriture sont liées à une sécheresse extrême dans cette région de France. Le niveau des fleuves, en effet, est trop bas pour permettre la navigation. Et vu qu'on est sur une zone amazonienne, cela condamne près de 40 000 habitants à l'isolement et à des pénuries, notamment d'eau potable. Un pont aérien devrait ravitailler les territoires concernés très prochainement. Le reportage du journal Reporter s'est intéressé à Maripasoula, qui est la commune la plus peuplée de cette région, où les bouteilles de gaz, par exemple, elles sont déjà presque introuvables dans les commerces, à en croire les habitants. La situation est de plus en plus critique et insoutenable. Nous manquons de tout, résume l'un d'eux. La nourriture et l'eau potable commencent aussi à être difficiles à trouver et à des prix exorbitants. Pour les 40 000 habitants donc, de cette région du Haut-Maroni et du Haut-Oyapock, si l'accès aux services publics élémentaires est généralement incertain, cette violence sécheresse donc, qui sévit dans l'ensemble du bassin amazonien est en train de transformer ces petites défaillances du quotidien en véritable crise humanitaire. Ce sont des régions amazoniennes dépourvues de routes et donc c'est le niveau d'eau dans les fleuves, donc à savoir l'étiage des fleuves, qui a atteint un niveau historiquement bas. Ça contraint les piroguiers, qui assuraient l'essentiel du transport des personnes et des marchandises, à réduire complètement, peut-être voire à réduire énormément ou à cesser complètement leurs activités. Seules donc des liaisons aériennes, qui sont effectuées par de petits avions à hélices de 19 places, permettent encore de relayer les différentes communes de Maripasoula, Camopi ou Grand Santi au littoral, où là par contre les marchandises circulent plus simplement, et les habitants craignent donc une aggravation de ces pénuries. C'est une saison sèche très intense qui dure normalement de août à novembre et qui est liée au déficit hydrique chronique que subit la Guyane depuis 18 mois, si on accepte le mois de mai de cette année, et associé à cela des températures anormalement hautes, ce qui pourrait d'ailleurs faire de l'année 2024 la plus chaude jamais enregistrée en Guyane, devant un précédent record qui lui datait de 2023. Selon Météo France, il s'agit donc là de deux conséquences du phénomène océanique El Niño et donc en toile de fond du dérèglement climatique. Alors qu'il reste un mois de saison sèche, le rationnement est déjà de mise pour l'eau potable pour plusieurs milliers de personnes. Il s'agit bien en plus en amont de cela déjà d'un problème structurel dans des villages les plus en amont du Maroni, un problème d'infrastructure, mais ces carences concernent désormais la plupart des habitants qui sont aussi raccordés aux forages alluvionnaires. Ce sont des forages qui s'approvisionnent dans les nappes phréatiques dont le niveau va donc dépendre du fleuve. Et cela, ça concerne aussi des localités plus en aval, comme sur la commune de Grand Santi, qui jusque-là était épargnée par ces problèmes. Quant aux rares marchandises qui arrivent dans la région par avion, que ce soit par la France ou le pays voisin, le Suriname, eh bien encore faut-il pouvoir se les payer. Quelques exemples, hein, à Maripasoula, des prix qui étaient déjà très très chers en temps normal ont presque doublé. On en est à 17 euros le pack d'eau ou 100 euros pour une bouteille de gaz. Si ce qui nous arrive se passait en France, on parlerait déjà de catastrophe naturelle. Résume justement un Maripasoulien à la tête d'une entreprise de fret qui a stoppé son activité. Et le lapsus en dit long puisqu'il parle de la France, comme si la Guyane n'était pas en France, il parle évidemment de la France métropolitaine. Les déplacements du quotidien pour les habitants, que ce soit pour des raisons de santé ou par exemple le transport scolaire, c'est un calvaire maintenant. D'ailleurs, en cette rentrée scolaire, plusieurs centaines d'élèves n'avaient pas de solution pour se rendre à l'école là. C'était hier. Le 31 octobre, la préfecture de Guyane a donc annoncé mettre en place un pont aérien grâce à des appareils de l'armée. L'objectif, bien déjà, de ravitailler les communes isolées en eau, en vivres, mais aussi en carburant, pour pouvoir faire fonctionner les centrales thermiques qui fournissent ensuite l'électricité de cette région du Haut-Maroni. En parallèle de tout cela, la collectivité territoriale de Guyane, qui a la main sur les transports aériens, a annoncé doubler les capacités de fret à destination des communes vers l'intérieur du pays. Et enfin, les villages les plus touchés par les pénuries ont reçu des fontaines à eau atmosphérique et des pastilles permettant de rendre potable l'eau des criques. Les fontaines à eau atmosphérique, j'ai pas été vérifier ce que c'était, mais j'imagine que c'est un truc qui permet de récupérer peut-être l'eau de l'atmosphère. En tout cas, ces mesures sont prises dans l'urgence, vous l'aurez compris, et bien qu'elles soient nécessaires et très chères, elles interrogent sur l'anticipation des services de l'État. Ces saisons sèches extrêmes, dont on sait qu'elles vont empirer avec le dérèglement climatique, ne sont pas nouvelles dans cette région. Et surtout, ça fait des années que les autorités de certains villages réclament des fonds, par exemple pour refaire un nouveau forage, et aussi que beaucoup d'élus locaux réclament la construction d'une route du fleuve, afin de relier Maripasoula au littoral pour des véhicules terrestres. Plusieurs fois promise, cette route n'est jamais achevée, en raison de son coût estimé à au moins 1 milliard d'euros. Cette route serait, selon les élus, le seul moyen de désenclaver cette région, qui est plus que jamais, vous l'aurez compris, donc aux confins de la République.
Ah oui, carrément.
Qu'est-ce qu'ils foutent en milieu rural aussi ?
Allez, on revient dans la ruralité plus proche de nous, dans l'Hérault, mais aussi des questions liées à l'eau. Toujours une brève piochée sur le journal Reporter. Un projet qui était sorti par la porte et qui tente de repasser par la fenêtre, c'est un promoteur de golf. Un promoteur dont le projet de golf était très contesté vient de déposer une nouvelle demande d'autorisation. On est sur la commune de Montagnac. Le problème, c'est que ce projet avait déjà été retoqué en 2023 par la préfecture de l'Hérault pour cause justement de pénurie d'eau. Les autorités avaient émis un avis défavorable hein, sur une grosse opération immobilière de luxe sur la commune de Montagnac, dans laquelle était par exemple promis la construction de plusieurs centaines de villas et un golf de 18 trous. Les autorités avaient justifié cette décision en mentionnant le contexte de sécheresse précoce. Visiblement, ce n'était pas suffisant pour décourager le porteur du projet, à savoir le domaine de Lavagnac, qui a donc déposé un nouveau dossier. Alors la nouveauté, c'est que le golf 18 trous devrait être intégralement arrosé via les eaux pluviales et la réutilisation des eaux usées traitées. Sauf que visiblement, cette solution est très contestée, notamment par les écologistes. Peut-être que ce n'est pas vraiment possible. Selon la mission régionale de l'autorité environnementale, en tout cas, qui a été sollicitée donc, par la préfecture pour donner son avis sur les conséquences environnementales, le nouveau projet est très mal emmanché. L'étude d'impact ne peut être considérée comme formellement complète. Il explique par exemple les experts. Il pointe de nombreuses incohérences et des lacunes, notamment concernant l'analyse de la vulnérabilité du projet au changement climatique. Quant à la préfecture de l'Hérault, qui a été sollicitée par Reporter, elle explique ne pas avoir changé d'avis sur le golf. Au regard des tensions que connaît le département en matière d'eau, la position de l'État n'a pas évolué. Elle est toujours aussi défavorable. Et on va s'intéresser à la biodiversité à grande échelle, à savoir l'échelle planétaire, puisque vous le savez sûrement, c'est la COP 16 sur la biodiversité qui s'est achevée ce samedi 2 novembre à Cali, en Colombie. Une COP 16 qui aura marqué notamment par l'échec pour obtenir l'échec cuisant, même on peut dire, concernant l'accord sur le financement de la feuille de route que l'humanité s'est fixée hein, pour stopper la destruction de la nature d'ici 2030. Combien de fois a-t-on entendu, donc depuis l'ouverture de cette COP 16, c'était le 21 octobre, qu'il ne restait que 6 ans pour appliquer les 23 objectifs de l'accord de Kunming-Montréal, qui date lui de 2022. Combien de scientifiques, de réseaux représentants d'ONG, de peuples autochtones et de la société civile se sont époumonés pour rappeler l'urgence ? C'est ainsi que commence le reportage de Reporter. À Cali, donc en Colombie, tout le monde semblait prévenu de l'état alarmant de la biodiversité et prêt à en découdre. Mais ça a joué les prolongations et parfois sans pouvoir conclure. Bon, tout de même, une grande victoire d'abord, qui en a réjoui beaucoup. Hein. Ça s'est passé sur les coups de 5h du matin. Et il était question des bénéfices tirés des ressources génétiques numériques, le DSI en anglais. Donc, dernier acte. Pour signer un partage équitable et juste de ces ressources et de ces bénéfices, il a été adopté après plusieurs objections. C'est un texte qui stipule que les entreprises qui utilisent ces ressources, donc génétiques et numériques, devront verser 0,1% de leurs revenus ou 1% de leurs bénéfices au nouveau fonds Cali, un fonds qui a donc été créé à l'occasion de cette COP sur la base de contributions volontaires. Hein. Ce n'est pas une taxe, c'est à eux de le donner. Et ces bénéfices sont dérivés des données génétiques de la nature. En effet, il est question bien d'exploitation des ressources qu'on découvre et qu'on imite dans la nature. C'est le cas quand même d'une énorme partie de l'industrie pharmaceutique. Hein. On n'invente pas des molécules au hasard. On va en général voir ce que font notamment les peuples autochtones. Et ensuite, on fait des molécules et on génère pas mal de profits. Parfois même, on pose des brevets qui interdisent aux populations locales de les utiliser. Ça, c'est un peu le contexte. Donc le texte a été finalement voté. Des objections quand même de l'Inde ou du Japon. Qu'est-ce que je peux vous dire donc sur les pays qui se sont un petit peu... Des délégations comme le Canada et le Chili ont salué cet accord historique. Le représentant du Brésil a lui d'ailleurs rappelé le bras de fer habituel sur cette question en pointant les pays du Nord qui pillent les richesses des pays en développement. En tout cas, donc une victoire, et c'est ainsi que commente Arnaud Gilles, le responsable diplomatie verte du WWF France. C'est une avancée majeure, dit-il. Nous étions inquiets de voir des pays comme la France défendre des entreprises qui piochent dans la nature depuis des décennies sans jamais rétribuer les populations autochtones qui en prennent soin. Rapport au fait d'ailleurs que ce fonds, qui est sous la garde de l'ONU, devra ensuite répartir l'argent entre les pays en développement et les peuples autochtones. Ces derniers, d'ailleurs les peuples autochtones, étaient présents en masse. Ils se sont réjouis de cette décision quelques heures après avoir célébré dans la salle bondée de la séance plénière, aussi un autre accord majeur de la soirée, le premier de cette soirée, à savoir la création du CDB. C'est un organe permanent, donc de la Convention sur la diversité biologique, qui représente les peuples autochtones et les communautés locales. Une grande émotion donc pour les peuples autochtones, hein, venus en masse assister à ce moment historique qui marquera pour eux l'histoire de la COP. C'est leur porte-parole, Camila Paz Romero, qui explique que ce nouvel organe subsidiaire est une référence pour le reste du monde qui montre que les parties reconnaissent la nécessité constante de notre participation. Elle parle donc au nom des peuples autochtones. D'ailleurs, 5 minutes plus tard, la même assemblée plénière a adopté l'autre qui avait été promesse faite par la présidence colombienne, à savoir la reconnaissance des communautés d'ascendance africaine dans ce texte. Donc ils incluent aussi les afro-descendants dans les peuples autochtones, puisque c'est donc aussi leur grande participation dans la préservation de la nature qui est reconnue par là. Voilà donc pour, on va dire, les bonnes nouvelles, en tout cas les avancées de cette COP16, mais je vous le disais donc en préambule, l'échec, c'est que les 196 délégations de tous les pays présents à cette COP repartent sans avoir tranché sur un point essentiel, à savoir la stratégie financière, comment on va financer tout ça, à savoir les milliards donc nécessaires à la préservation de la biodiversité. Les besoins sont chiffrés à au moins 20 milliards de dollars. Et il faut. Enfin, ce sont des besoins qui s'élèvent à au moins 20 milliards de dollars de transfert depuis les pays développés vers les pays en développement d'ici 2025. Et il faudrait au moins 30 milliards d'ici 2030, d'après donc ce fameux cadre de Kunming-Montréal, signé donc à Montréal en 2022. Le texte associé, en effet, devait être examiné par l'Assemblée. Et il n'a été remis aux parties qu'à 3h du matin pendant les discussions. À ce point d'ailleurs que certains observateurs s'interrogeaient sur la bonne voie, la bonne volonté, la bonne foi de la présidence de vouloir trancher cette question. Le texte ouvrait notamment la voie à la création d'un nouveau fonds, qui est réclamé là aussi encore par les pays du Sud, et notamment le groupe Afrique, parce qu'ils considèrent que le fonds actuel est difficile d'accès et pas du tout favorable à leurs intérêts. Le fonds actuel est, dit-il aujourd'hui, davantage attribué à des pays émergents comme le Brésil ou la Chine. C'est une spécialiste de la gouvernance et des négociations internationales à l'IDRI qui le rappelle, Juliette Landry. Les pays développés, eux, se disent hostiles à la multiplication des fonds, vu que les fonds sont principalement quand même destinés à prendre leur argent et à le redistribuer au Sud. Et ils estiment pour leur part que le mécanisme actuel fonctionne déjà bien, un mécanisme hébergé par le Fonds mondial pour l'environnement. Donc pas très d'accord sur la manière de transférer ces fonds. Et c'est finalement un représentant du Panama qui a mis un terme aux 10 longues heures de séance en provoquant le coup de marteau final, faisant remarquer tout simplement que le nombre de délégués encore dans la salle était désormais insuffisant pour constituer le quorum nécessaire et que donc il fallait arrêter les débats sur cette importante question, donc remis à des réunions ultérieures. Ainsi, David Ainsworth, le porte-parole de la CDB, a annoncé donc que la clôture formelle des travaux de la COP16 serait reportée à une date ultérieure. Cette soirée aura aussi, malgré tout, été marquée par l'adoption d'un texte essentiel qui place la biodiversité au même niveau que la décarbonation et le changement climatique. C'est donc un symbole important pour donner le flambeau à un autre pays d'Amérique latine, le Brésil, qui accueillera la COP30 sur le climat à Belém l'an prochain. On a mis donc le changement climatique et la biodiversité sur le même plan d'importance. Parmi d'autres avancées notables, on peut citer le texte sur les zones marines d'importance écologique ou biologique, hein, un texte issu d'un processus long de négociation sur 8 ans qui permet d'identifier et de cartographier des aires marines à protéger. C'est important au moment où le traité sur la haute mer entre en vigueur, car nous cherchons à protéger des zones océaniques situées au-delà de la juridiction nationale, explique un membre du WWF. À l'heure actuelle, en effet, seulement 8,4% des zones marines et côtières font l'objet d'une forme de protection, selon l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, et alors que seuls 44 des 196 pays ont déjà établi un plan national, donc à leur échelle, pour enrayer la perte de biodiversité, que 119 de ces pays ont soumis des engagements sur tout ou partie des objectifs. La délégation française regrette donc à l'issue de cette COP16 qu'un cadre de suivi clair qui permette de suivre les progrès de chaque État n'ait pas été fixé. Chacun est donc un peu libre de faire bon ce qu'il lui semble sans de rendre de compte à l'Assemblée. Donc voilà, rendez-vous à Erevan en Arménie, la ville qui a été désignée pour accueillir la COP17. Ça sera en 2026 face à son ennemi historique, l'Azerbaïdjan, puisqu'il n'y a pas question que d'écologie dans ces réunions, vous l'aurez compris, c'est aussi hautement politique. Pour terminer ces nouvelles du monde et rester justement dans les inégalités balance nord-sud, des petites nouvelles de ce qui se passe à l'OMS. En effet, en ce moment, des négociations ont lieu pour tenter de préparer le monde aux pandémies. Les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé, donc qui dépendent de l'ONU, ont repris ce lundi les négociations pour tenter de finaliser un accord sur la prévention des pandémies, à savoir les épidémies de Mpox, de Marburg ou de H5N1, puisque ces dernières épidémies rappellent l'urgence de parvenir à un accord sans refaire les erreurs mortelles du Covid-19. Ça fait plus de 2 ans que ça négocie, hein. Il y aurait donc peut-être un bon espoir de conclure les prochains jours un accord, dans les 15 prochains jours, d'autant que les négociateurs ont convenu de repousser à plus tard des discussions sur les points les plus contentieux, à savoir le partage des savoirs et l'accès équitable aux avancées médicales. Ça rejoint un petit peu les discussions précédentes à la COP16 avec notamment les savoirs autochtones. Les récentes négociations donc en Colombie sur la biodiversité prévoient un mécanisme comparable, ont d'ailleurs un petit peu, je vous l'ai dit, reculé sur ces questions de financement, et c'est la même chose visiblement du côté de l'OMS. Donc pour l'instant, ils parlent de principe. Ne laissez pas le mieux devenir l'ennemi du bien, c'était d'ailleurs un conseil du chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aux négociateurs nationaux à l'ouverture des pourparlers pour espérer au moins arriver à signer quelque chose. Le temps n'est pas notre allié, dit-il, le Covid circule toujours, le Mpox est une urgence sanitaire mondiale, nous avons une épidémie de Marburg et une propagation du H5N1. La prochaine pandémie n'attendra pas. Je vous laisse aller googler tout ça si vous n'êtes pas au fait des récentes découvertes et de ce qui se passe au niveau mondial. En décembre 2021, en tout cas c'est là que ça a commencé, hein, puisqu'on craignait une répétition de la catastrophe du Covid-19 qui a tué des millions de personnes, les 194 pays membres de l'OMS ont donc convenu de trouver un accord, ou d'essayer de trouver un accord sur la prévention, la préparation et aussi la réponse aux pandémies. Et je vous le disais, l'émergence d'une nouvelle souche de Mpox, hein, c'est une épidémie mortelle du virus de Marburg au Rwanda, l'émergence d'une nouvelle souche de Mpox ainsi que l'épidémie mortelle du virus Marburg au Rwanda et la propagation de la grippe aviaire H5N1 ont un petit peu accéléré et clarifié les enjeux de cette concertation mondiale. Les diplomates sont d'ailleurs tombés d'accord sur une grande partie des 37 articles du projet au cours des 11 cycles de négociations qui ont déjà eu lieu ces deux dernières années. La principale section sur laquelle il faut donc encore trouver un consensus concerne l'accès aux agents pathogènes pour la communauté scientifique et la recherche médicale, donc à savoir avoir des échantillons, et puis surtout bien les garder, pas faire trop de bêtises. Et ensuite, l'autre question, c'est les produits de lutte contre la pandémie, ainsi que les vaccins ou autres tests dérivés de ces recherches que tout le monde en ait et des qui fonctionnent. Pour l'heure, c'est donc l'impasse entre les pays riches et les pays pauvres, qui n'ont pas oublié qu'ils ont été abandonnés à leur sort pendant la pandémie de Covid-19. Si le monde a échoué sur un point, c'est sur la question de l'équité, d'ailleurs, soulignait le patron de l'OMS vendredi dernier. Il faisait référence donc à la pandémie de Covid-19. Pour ce qui est des groupes présents et qui justement expriment cette amertume, on peut citer l'Afrique qui a été laissée pour compte à l'époque et cela ne devrait pas se produire, hein, soulignait le président. Helen Clark, ancienne première ministre néo-zélandaise, juge, elle, que le Sud considère que le Nord protège ses industries pharmaceutiques et que cela laisse un goût incroyablement amer entre le Nord et le Sud. Parmi d'autres représentants de pays, la Malaisie, qui s'exprimait, elle, au nom d'un groupe de pays en développement qu'on appelle le groupe pour l'équité, affirmait que des améliorations majeures sont encore désespérément nécessaires dans de nombreux domaines. Elle exigeait qu'au moins 20% de la production en temps réel de vaccins, de tests et de traitements aille directement aux pays en développement. La Tanzanie, elle, qui parlait au nom des 48 pays africains, a affirmé ne pas pouvoir accepter un accord qui ne serait pas fondé sur l'équité. Et la Chine, elle, a insisté sur le fait que la qualité ne devrait pas être sacrifiée au profit du temps. Alors là, c'est la Chine qui explique ça. Je vous laisse méditer là-dessus. Hein. Et puis on se demande qui jouera franc-jeu lors de la prochaine épidémie. Voilà, pour lire un peu plus en détail, c'est un article que j'ai trouvé dans les colonnes de Science et Vie.
Alors, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure que c'est un coup de fantomas.
On se dit à jeudi, les amis, pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, portez-vous bien. Qu'est-ce qui se passe cet après-midi? Je vous en reparle juste après le jingle.
Monsieur, des informations, il y en a plein. Hein. Par exemple, il y en a plein. Hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.